nouvelle vague.
Un rendez-vous cinéma
sur le Bouquet Grandvillain.
Bienvenue dans Nouvelle Vague, l'émission du cinéma Grandvillain et au-delà. Au sommaire de cette 9e émission, la criée des sorties, avec les événements à venir des salles de cinéma locales et un petit reportage sur le comité de programmation du cinéma de la plage à Hauteville-sur-Mer. Dans la Nouveautech, Mathieu fait la lumière sur le réalisateur taïwanais Edward Yang avec un gros plan sur le film The Terrorizers. Flora nous parlera ensuite du film de Todd Haynes, Dark Waters, dans les toiles de la Grand-Villaise. Et, cela ne vous aura sans doute pas échappé, Granville va être le décor d'un téléfilm policier, L'Aigle de Sang. On a interviewé la chargée de casting Agnès Deslignerys lors de l'appel à figurants qui s'est déroulé vendredi 6 mars au FJT du Rock. Bonne émission! Nouvelle vague.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
La criée des sorties.
Outre leur programmation habituelle, les salles des alentours proposent régulièrement des événements. En voici un petit aperçu. À Granville, des séances ciné-goûtées pour les petits spectateurs autour du programme L'équipe de secours, des courts-métrages animés avec des marionnettes qui nous viennent de Lettonie. Également en ciné-goûté le 14 mars au cinéma de Agon-Coutainville et au cinéma de Villedieu. Toujours à Villedieu, une projection du film Le Caporal épinglé pour la programmation classique sur grand écran avec Macao 7e art, le dimanche 15 mars à 17h en présence de Youri Deschamps. Le long cours à Coutances, un débat autour du film documentaire La part des autres, lundi 16 mars à 14h, et également, tout au long du mois de mars, des courts-métrages sur le thème des discriminations en avant-séance dans le cadre de l'opération Discrimine Action organisée par les UNEL. Dans ce même cadre, le cinéma de la plage à Hauteville-sur-Mer organise une soirée autour du film Les Invisibles le vendredi 20 mars à 20h30. On vous parlera de la fête du court-métrage dans le prochain numéro, avec une séance spéciale à noter d'ores et déjà dans vos agendas, le lundi 30 mars, au cinéma Le Select de Granville.
La bande-annonce.
Ouais, moi aussi, ouais.
Effectivement, c'est violent, hein. Mais peut-être que la personne de première est jamais allée dans un établissement avec des enfants qui ont des troubles du comportement.
Oui, voilà,
et
hein,
que ça lui paraît très très dur, mais oui, ça m'a pas ça. Paru excessif par rapport à un gamin qui a des vrais gros troubles du comportement.
L'ambiance est studieuse ce soir dans les coulisses du cinéma de Hauteville-sur-Mer. 15 membres du comité de programmation ont répondu présents à la réunion mensuelle durant laquelle sont passés en revue tous les prochains films à l'affiche. Anne-Marie et Marie-Vonne jouent les chefs d'orchestre.
Donc le suivant, c'est Brooklyn Secret.
T'as quelque chose?
Oui, il y a une...
Donc Anne-Marie et Marie-Vonne, vous faites partie du comité de programmation du cinéma de Hauteville-sur-Mer. À titre personnel, ça fait combien de temps que vous faites partie du comité de programmation et qu'est-ce qui vous a motivé ou amené à faire ça?
Moi, je fais partie de l'association presque depuis le début, depuis 98, donc ça fait 20, quelques. Et la programmation, bah, ça fait longtemps aussi, depuis, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, je sais pas.
Vous avez toujours été cinéphile, vous savez.
Oui, oui, toujours. Mais bon, après, la programmation, ça ne s'improvise pas. On apprend petit à petit des collègues qui nous briefent. Et puis après, un jour, on devient plus opérationnel. Quoi. Mais c'est bon. On peut toujours se tromper hein, dans le choix.
Oui, c'est pas toujours facile. Ben, moi, c'est à peu près pareil. Hein. Enfin, ça fait un petit peu moins longtemps que je fais partie de l'association. Mais depuis le début, enfin, je suis voilà, à la commission de programmation parce que ça m'intéresse. Voilà, j'aime le cinéma. C'est ce que je trouve presque le plus intéressant dans l'association. Enfin, autrement, voilà, on aide à la caisse, on vend les bonbons. Mais la programmation, c'est quand même le plus intéressant.
En même temps, le fait d'être à la caisse, vous avez le retour du public aussi sur les films que vous avez choisis.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Quelquefois, voilà, ils nous disent à la sortie, bah, c'était bien, ça nous a plu, vous faites une bonne programmation. On a quand même assez souvent ça et c'est sympa. Voilà.
Et puis, c'est toujours bien de défendre des films qui n'auraient pas forcément une large audience. Ça, on y est attaché quand même. Oui. On essaie de les passer, même si ce n'est pas forcément immédiatement pour la sortie, mais...
Alors, on aimerait bien savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne. Vous vous réunissez une fois par mois, c'est ça ?
Oui, un groupe assez informel, mais des gens qui reviennent souvent, puis d'autres personnes de l'association. C'est ouvert à tous. Et donc, nous choisissons les films de façon démocratique. On présente les films qui vont sortir dans les 2 mois. Et puis, à la fin de la réunion, on vote. Pour prendre tel film ou tel film.
Alors, vous vous basez sur un résumé, des informations techniques ?
Oui, les critiques sur Internet, des films qui sont passés dans des festivals, des films qu'on a visionnés.
Oui, quelquefois, on va à des prévisionnements ou des festivals, donc on a un peu plus d'informations enfin, voilà, sur ces films-là. Et on fait des recherches, voilà, il y a 5-6 personnes de la programmation qui prennent 3-4 films chacun et qui font des recherches un peu sur certaines critiques enfin voilà pour un peu présenter les films que les autres personnes présentes soient un peu au courant et puis on regarde les bandes annonces aussi.
Est-ce que vous faites attention lorsque vous réalisez cette programmation à satisfaire un peu tous les publics, c'est-à-dire du jeune public au public plus RSS si je puis dire?
Oui, ben de toute façon, on a une programmation grand public, donc on choisit des films grand public, puisqu'on a la chance d'avoir 2 salles, donc c'est plus facile. Et puis des films RSC aussi, et jeune public, hein, enfin on fait vraiment voilà, les 3. Enfin, on présente surtout les films RSC, hein, qui sont moins connus. Voilà. Bon, les films grand public, on en parle un petit peu, mais voilà, on essaie de voir ce qui va plus marcher ou plaire aux spectateurs.
Et il y a un gros tri à faire parce que il y a entre 15 et 20 films qui sortent par semaine. Donc, il faut déjà faire une sélection au départ pour pouvoir présenter après à nos collègues quelques films et qu'on puisse piocher dans le choix de la commission de pré-programmation.
Et est-ce que c'est compliqué de vous décider d'arriver à définir collectivement un choix ?
Non, ça se fait par le vote, donc au nombre de voix. Voilà.
Au nombre de fois, très bien.
Parce qu'on ne présente pas tout, donc on essaie d'en discuter, de voir ce qui est quand même le plus intéressant, si on a un peu de renseignements sur ces films-là. Après, les films RSC, c'est moins grave si on ne les prend pas, voilà, par exemple, pour le mois prochain, parce que c'est des films qu'on pourra prendre le mois suivant. Par contre, les grands publics, il faut essayer de les avoir assez vite, soit en sortie nationale, soit assez vite.
Et l'intérêt aussi d'avoir 3 sites, Hauteville, à Goncoutainville et Pirou, c'est de pouvoir, sur le même programme, pour les gens qui sont attachés par exemple à voir un film, se dire bah, il ne passe pas à Hauteville mais il va passer à Coutainville. Donc ça permet d'avoir un plus large choix de films aussi pour les spectateurs.
D'accord, très bien. Merci beaucoup.
Nouvelle vague.
Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit.
La Nouveautech.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Marilyn.
Tu vas nous parler aujourd'hui d'un film d'Edward Young, The Terrorizers. Est-ce que tu peux nous rappeler qui était Edward Young ?
Oui, Edward Young, c'était un des chefs de file de la nouvelle vague du cinéma taïwanais dans les années 80. Et en France, il est surtout connu pour le dernier film qu'il a réalisé, c'était 7 ans avant sa mort prématurée en 2007. Le film c'est Yi Yi. Il avait remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2000 et il avait connu un beau succès public. Mais à ce moment-là, Edward Yang il avait déjà une carrière conséquente avec une poignée de films somptueux, dont peu ont été exploités en France malgré le travail de popularisation de certains critiques cinéphiles, notamment Charles Tesson et Olivia Assayas, le futur cinéaste, qui était à ce moment-là journaliste au Cahier du cinéma. Alors le parcours d'Edward Yang, il est singulier à l'image de son cinéma. Il est né à Shanghai en 1947. Il a grandi à Taïwan, où ses parents ont migré pour fuir le régime communiste de Mao. Puis il a fait de brillantes études d'ingénieur qui l'ont amené à s'installer aux États-Unis, où il s'est spécialisé dans la recherche informatique. Donc jusque-là, aucun lien avec le cinéma. Et c'est très tardivement en fait qu'il s'est lancé dans le cinéma, à l'occasion d'un retour à Taïwan, donc à la fin des années 70. Il a collaboré d'abord à la réalisation d'un téléfilm, et puis il a participé à l'émergence de la nouvelle vague taïwanaise en réalisant un segment d'un film collectif auquel a contribué également son ami Hu Xiaoxian, qui est un autre fer de lance du mouvement et autre cinéaste taïwanais assez réputé.
The Terrorizers est son troisième film, réalisé en 1986. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le titre qui est assez énigmatique ?
Oui, en effet, c'est un titre plutôt déroutant. Et je pense que c'est une traduction approximative du titre original en mandarin. Alors on pourrait proposer peut-être une traduction moins fracassante mais plus pertinente qui serait les agents de la terreur ou les agents du désordre, du chaos, de la confusion si vous voulez. Alors qui sont ces mystérieux agents de la confusion dans le film ? C'est difficile à dire. Si on veut raconter l'histoire du film, on est quand même un peu embarrassé parce que c'est une sorte de puzzle. Il y a plusieurs fragments d'intrigue et plusieurs personnages qui se croisent dans une ambiance de thriller. Au début, on voit un homme assassiné en pleine rue dans un quartier pauvre de Taipei, la capitale taïwanaise. Et puis on voit l'appartement pris d'assaut par les forces de police, une jeune femme qui a réussi à s'échapper, qui est suivie par un photographe amateur qui se trouvait par hasard sur les lieux du crime. Et puis ensuite on rencontre d'autres personnages, un couple en crise constitué d'une romancière en mal d'inspiration et d'un médecin dans un hôpital. Et ceux-là, donc ces personnages-là, ils vivent dans un quartier riche de la capitale, donc ils représentent un milieu aisé, mais ils vont se trouver confrontés d'une façon inattendue aux personnages qu'on a vus au début donc, et qui évoluent dans un environnement, eux, défavorisé. Donc en fait, le dénominateur commun de ces intrigues un peu nébuleuses, c'est la ville de Taipei. Et c'est presque un personnage à part entière qu'Edward Yang filme magnifiquement en révélant les mutations urbaines liées à l'ouverture du pays à la société de consommation mondialisée et au faux semblant de l'économie libérale. Donc finalement, on pourrait presque dire que le vrai agent de la terreur, le terrorizer du titre, c'est peut-être tout simplement Taipei, la capitale. Edward Yang, c'est un cinéaste qui travaille le cadre dans la lignée d'un de ses modèles, Antonioni, le cinéaste italien qui avait réalisé notamment Blow Up. Chacun des plans est magnifique, sans qu'il y ait une tendance à l'esthétisation. On voit les corps se déplacer dans un espace urbain qui semble de plus en plus cloisonné et étouffant.
Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Quelle musique du film t'aurais envie de nous faire écouter ?
Alors, je me suis fait la réflexion donc, en regardant le film qu'il y avait très peu de musique originale et pourtant la musique a un rôle assez important, même si elle est rare. Et il y a par exemple une très belle scène où on voit un des personnages écouter sur son tourne-disque la fameuse chanson des Platters, le groupe de doo-wop du début des années 60, une chanson qui s'appelle « Smoke Gets in Your Eyes ». Je pense que tout le monde reconnaîtra très vite cette belle mélodie.
They asked me how I knew my true love was true. I was blind, something here inside. Someday you'll find all who love are blind. Oh, when love's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chant them and I gaily laugh to think they could die.
Mathieu, tu nous dis qu'il y a plusieurs personnages dans ce film, plusieurs récits liés à ces personnages. Est-ce qu'on peut parler d'un film choral ?
Oui, pourquoi pas, éventuellement, mais pas un film choral au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire un film qui met en scène de nombreux personnages au destin lié. Dans The Terrorizers, le destin des personnages, il est noué par un artifice de narration, un événement qui tient à chaque fois de la fiction et qui obéit au code d'un genre. Par exemple, au début, l'assassinat d'un homme en pleine rue qui va provoquer fortuitement la rencontre du photographe et de la complice de l'assassin en fuite. Et en fait, chaque fragment d'intrigue interagit sur l'évolution des personnages un peu comme un cadavre exquis. En bref, il y a un côté très ludique. Un dérèglement organisé de la narration. Alors c'est peut-être un film choral, mais si c'est un chœur, disons qu'il est dissonant, quoi. Et ce qui séduit dans le film, comme dans la plupart des films d'Edward Dyang, c'est le climat qu'il arrive à installer, avec une espèce de tension à la lisière du fantastique, au fur et à mesure qu'on approche de la fin. D'ailleurs, c'est un dénouement très étrange et audacieux, qui est fait pour désorienter à nouveau le spectateur au moment où il commence à s'y retrouver un peu, car les éléments du puzzle se mettent en place. Mais j'en dirai pas plus sur cette fin.
On peut trouver d'autres films d'Edward Dyang en DVD à la médiathèque ?
Oui, alors il y a bien sûr Yi Yi, qui pendant longtemps était le seul film disponible en DVD, mais ces dernières années, il y a eu un travail d'édition important qui a permis de mettre un coup de projecteur sur le cinéma à la fois moderne et intemporel d'Edward Dyang. Alors je vous recommande particulièrement son film Fleuve, il dure près de 4 heures, hein, qui est sorti en 1991, A Brighter Summer Day. Il n'y a pas de titre français, on pourrait traduire par Une belle journée d'été. Alors A Brighter Summer Day, c'est une évocation de la jeunesse du réalisateur au début des années 60 dans une société taïwanaise en butte à la rigueur autoritaire du parti nationaliste, une société qui se débattait entre l'influence américaine omniprésente et la menace de la Chine communiste, donc juste en face de Taïwan. C'est une fresque subtile, bouleversante, une espèce de teen movie dostoïevskien, et c'est sans doute le chef-d'œuvre d'Edward Dyang, hein, A Brighter Summer Day, si on devait désigner un chef-d'œuvre dans sa filmographie. Mais finalement, je trouve que The Terrorizers, donc le film de 1986, son troisième film, c'est une porte d'entrée idéale dans l'univers de ce cinéaste, parce qu'on y trouve évidemment le même art de la composition plastique qui est vraiment époustouflant à travers la représentation très graphique de la ville. Mais il y a l'ambiance mystérieuse et le rythme plus abrupt du film noir qui permettent donc de passer en contrebande une réflexion sur l'aliénation des hommes dans la société contemporaine. Et donc c'est vraiment un film qui permet de faire connaissance avec l'œuvre d'Edward Dyang de façon plus simple peut-être. Et un très beau film en tout cas qui donne envie de découvrir ses autres films.
Merci Mathieu pour cette découverte.
De rien.
À bientôt.
À bientôt.
Il nous faudrait un plus gros bateau.
L'étoile de la Grand-Villaise. Votre grand-mère m'a dit que son petit-fils était avocat à Cincinnati, spécialisé dans l'environnement.
Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis avocat d'affaires, donc je défends les entreprises de chimie.
Bah, maintenant, vous allez me défendre.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Étoile de la Grand-Villaise, on parle de Dark Waters de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Pullman et Tim Robbins. Le film du réalisateur connu pour avoir réalisé I'm Not There et plus récemment Carole ou encore Le Musée des Merveilles est tiré d'une histoire vraie. Il développe en un peu plus de deux heures le long combat de l'avocat Robert Bilott contre l'entreprise chimique Dupont. L'histoire qui dure depuis plus de 30 ans est racontée chronologiquement. Elle commence à la fin des années 1990 lorsque Robert Bilott et le fermier Wilbur Tennant se rencontrent et elle se termine aujourd'hui. Comme l'article du New York Times sur lequel son scénario se base, Dark Waters dénonce le scandale sanitaire et écologique international du PFAO, produit chimique notamment utilisé dans la fabrication du téflon. Il pointe du doigt les mécanismes de manipulation des grandes entreprises comme le mensonge, l'intimidation et la corruption. Si comme moi vous êtes sensible à ces questions, vous ne serez pas déçu. Vous sortirez certainement de la salle un peu écœuré par l'injustice dont nous a rendu victime l'entreprise qui nous a et nous intoxique encore sciemment. Dark Waters nous rappelle que les lois peuvent être enfreintes par ceux qui ont le pouvoir. Bref, il appuie ce qui nous est répété depuis le plus jeune âge par le géant américain Disney. Il y a les gentils et les méchants, les grands et les petits, les riches et les pauvres. Alors cela ne veut pas dire que le trait est forcé, le film de Todd Haynes s'approche même plus d'un documentaire que d'un blockbuster américain. Le réalisateur a d'ailleurs choisi de tourner de nombreuses scènes à Parkersburg, en Virginie occidentale, où se trouve le site de l'entreprise Dupont mis en cause. Il a même filmé plusieurs habitants de la commune américaine. Et la plupart des scènes qui se déroulent dans les bureaux du cabinet d'avocat Taft, dans le quartier d'affaires de Cincinnati, y ont même vraiment été tournées.
C'est juste une petite affaire pour un ami de la famille. Et au moins, on aura aidé quelqu'un.
Le fermier ou toi ?
C'est les produits chimiques qui font ça.
Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait ?
En boire ? C'est comme de demander, et si j'avale un pneu, c'est grave ?
Mark Ruffalo, sans qui Dark Waters n'aurait pas été réalisé, puisqu'il est à l'origine du projet qu'il a également produit, est excellent dans le rôle de l'avocat déterminé. Il parvient à nous faire rentrer dans la tête de son personnage sans en faire des caisses. Et on comprend ce qu'il pousse à persévérer, quitte à mettre en jeu sa famille, sa carrière et sa réputation. Bref, même si vous risquez de plus regarder vos ustensiles de cuisine comme avant, on vous conseille vivement d'aller voir Dark Waters en salle.
l'interview phare.
Bizarre cette vague.
Bonjour Agnès.
Bonjour Marilyn.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter votre métier ?
Oui. Alors, je suis donc effectivement chargée de casting sur ce téléfilm. Donc, en ce qui concerne les seconds rôles, les silhouettes et la figuration. Donc, quand on parle de second rôle, ce sont des rôles secondaires, voilà, des petits rôles, on dit ça aussi. Bien que tous les rôles aient leur importance. Et les silhouettes, ce sont des personnes qui sont appelées à parler aussi pendant le téléfilm ou qui ont une importance particulière à la caméra, donc une présence aussi importante. Donc on va voir soit en gros plan, soit avec une expression particulière, et qui dans leur texte ont jusqu'à 5 mots à dire. Ensuite, on passe au rôle. Et la figuration, donc ce sont des personnes qui sont là pour animer le décor, donc qui n'ont pas de texte, mais qui vont avoir des actions à réaliser pendant le tournage de la séquence. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je m'occupe de casting, essentiellement pour des téléfilms. Et donc j'ai commencé par une série qui a tourné au Havre, qui s'appelle Deux flics sur les docks. Donc j'ai commencé, j'ai mis un pied à l'étrier parce que j'ai fait des études de photographie et à la fin donc de mon parcours d'études, j'ai fait des photographies de plateau pour une artiste qui réalisait un court-métrage. Et j'ai découvert le monde du plateau et du tournage à ce moment-là. Et donc après être sortie de ces études-là, j'ai voulu continuer. Et donc voilà, j'ai pris des contacts comme ça quand je suis arrivée en Normandie. Et on m'a, voilà, force de d'aller voir l'association qui s'occupe de l'accueil des tournages, etc. On m'a proposé de commencer par m'occuper de la figuration sur cette série.
Vous exercez en Normandie, c'est ça ?
J'exerce essentiellement en Normandie pour le moment, oui.
D'accord, voilà. Pour une société ou à votre compte ?
Je suis indépendante, oui. Je suis indépendante et ensuite je suis contactée par les productions. Donc quand elles ont un tournage à réaliser... Voilà, elle me contacte directement.
Quelles sont les qualités, entre guillemets, requises pour pouvoir choisir des silhouettes, des rôles ?
Alors, il faut être à l'écoute du réalisateur. Il faut arriver à imaginer aussi un personnage à travers la lecture d'un scénario. Ensuite, il faut aimer les gens. Il faut aimer le contact, il faut avoir aussi le sens de l'organisation, parce qu'on voit du monde forcément. Il faut avoir aussi un sens, un sens artistique, savoir percevoir soit le potentiel de quelqu'un, soit pouvoir l'imaginer dans un rôle qu'il n'a pas forcément, ou si être force de proposition, peut-être pour élargir ce que pouvait imaginer un réalisateur à la base, proposer des voies de traverse, enfin autre chose. Être diplomate, parce que quand on retient pas quelqu'un pour un rôle, par exemple, c'est pas au début, c'est pas facile à dire, voilà. C'est vrai que c'est frustrant pour moi de ne pas pouvoir répondre positivement à tout le monde, puisque je sais que c'est une expérience que les gens ont envie de vivre et que j'aimerais pouvoir leur offrir à chacun la possibilité de vivre ça, et c'est pas possible. Donc il faut dire non ou ne pas répondre oui, en tout cas. Et ça, c'est vrai que c'est le côté un peu frustrant de l'affaire. Il faut résister au stress aussi. Parce que quand on s'occupe de figuration notamment, il y a des demandes de dernière minute même ça m'est arrivé deux heures à, enfin voilà, sur le même le jour même du tournage, le réalisateur trouvait qu'il n'y avait pas assez de figurants, donc tout d'un coup on dit il faut 10 figurants de plus, donc là on se met à appeler tous les gens qu'on a dans notre fichier, dans notre réseau, pour essayer de trouver les 10 figurants dans l'heure qui suit. Parfois, il y a des désistements de dernière minute, donc il faut savoir remplacer les gens rapidement, appeler les gens parfois à 10h du soir. Enfin, c'est, voilà, faut être assez souple aussi.
Je crois qu'il y a, il y a des postulants qui sont arrivés. On va peut-être faire une petite pause, du coup. Je vais vous laisser travailler.
Voilà, je vais les recevoir et les prendre en photo.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Pauline.
Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à venir ici aujourd'hui pour postuler à ce casting ?
C'est un petit peu l'opportunité en fait, c'est pas, enfin, pour voir, pour une expérience un peu différente. Il n'y a pas, pas de vraie, comment dire, vocation ou autre derrière.
Vous n'avez jamais fait de tournage auparavant ?
Non, jamais.
D'accord, donc là ce serait une première.
Oui.
Et vous avez un emploi du temps qui vous permet d'être libre ?
Oui, j'ai une journée, des après-midi libres par semaine. Je suis enseignante, donc un petit peu de temps libre.
Là, vous en avez entendu parler comment de ce casting ?
J'en ai entendu parler par plusieurs articles sur Internet et puis par mon ami Jonathan qui m'a envoyé un lien aussi.
D'accord, vous êtes venus tous les deux. Je vais peut-être poser les mêmes questions à Jonathan. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
C'est la première fois que vous essayez de postuler pour participer.
C'est une première pour moi, oui. Oui. Toute première.
Et qu'est-ce qui vous a attiré ?
C'est un tournage sur Granville. Moi, je suis né à Granville. J'ai toujours vécu ici, donc je trouve ça très intéressant de pouvoir peut-être prétendre à un rôle de figurant dans un film sur Granville.
Oui, puis de participer à une expérience de cinéma.
Exactement, ouais. Ouais, ouais.
C'est la première fois que vous voyez ce genre d'annonce.
Oui, c'est la toute première fois. Et puis sur Granville, j'étais un peu étonné du coup. Je me suis dit, tiens, un film sur Granville. Donc j'ai tout de suite été très intéressé.
Très bien, bonne chance.
Merci beaucoup.
On retrouve Agnès avant d'interviewer une autre candidate au casting.
Est-ce que vous êtes présente sur le tournage ou c'est un moment où vous n'êtes plus là du tout ?
Oui, alors je suis présente en préparation donc pour les petits rôles, c'est-à-dire que je suis là pour lire le scénario. Ce qu'on appelle le dépouillement, c'est lister les rôles à recruter et les recruter en amont. Et après la figuration, on la prépare aussi un peu en amont. Et quand on est chargé de figuration, on dit aussi chef de file. On s'occupe également de tout ce qui est contrat. Donc on fait signer les contrats aux figurants et on est présent sur le plateau quand il y a... Maintenant, c'est plus à partir de 10 figurants pour pouvoir les gérer sur le plateau, gérer les papiers et être une aide aussi à la mise en scène.
Ouais. Est-ce qu'il y a des particularités, enfin une ou des particularités avec ce film sur le casting ?
Il va y avoir deux journées assez importante, avec donc notamment la journée où le cadavre est découvert sur la plage. Donc là, effectivement, il y a intervention de la police dans la séquence. Et il y aura pas mal de promeneurs, en fait, qui seront là sur la plage ou la promenade du Plagousset pour assister, en fait, à l'événement, entre guillemets. Et puis il y aura une autre journée aussi un peu importante avec où notre héroïne, donc qui est écrivain, va signer, dédicacer son livre, et donc une soirée de dédicace avec des personnes qui assistent à la soirée.
Est-ce que dans votre expérience, vous avez des castings qui vous ont marqué pour X raisons ?
Celui qui m'avait beaucoup amusée. C'était un casting pour une série. Et il fallait que je trouve des gens qui acceptent de courir tout nu autour d'une piscine. Voilà, donc c'est une recherche particulière et qui m'avait assez amusée, en fait, de savoir où est-ce que je pouvais trouver ces personnes-là. Et voilà, c'était un petit défi.
Et vous les avez trouvés?
Oui, je les ai trouvés. Oui. On finit toujours par trouver.
Oui, il y a toujours des gens motivés pour ce genre d'expérience. En fait, je dis pas courir autour d'une piscine, mais quand il s'agit du cinéma.
Oui, il y a toujours des gens qui sont aussi ouverts à ce genre de choses. Et puis, c'est chouette. En fait, ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est qu'on rencontre vraiment tout type de personnes et on découvre que chacun a quelque chose d'intéressant en lui. Ça, c'est une vraie fascination.
Et à nouveau quelqu'un ?
Voilà, à nouveau quelqu'un.
À nouveau quelqu'un, on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup, Agnès.
Merci, Marie-Line.
Bonjour.
Bonjour.
Votre prénom, c'est ?
Marianne.
Marianne, vous êtes venue aujourd'hui au casting pour le téléfilm L'Aigle de Sang. Qu'est-ce qui vous a amené ici ?
La curiosité, plutôt. Voilà. C'est tourné dans Granville, une ville que j'ai toujours connue, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un événement quand même.
Vous en avez déjà fait auparavant ?
Quelques projets avec des amis et sinon oui voilà j'ai déjà été figurante dans une docu-fiction qui a été tournée dans les jardins Christian Dior sur le sujet Christian Dior, voilà.
D'accord. Voilà. Vous faites quoi actuellement ?
Actuellement je suis en année de césure, mais l'année dernière je faisais une fac cinéma à Lille et je me réoriente. L'année prochaine je fais un CAP vitrailliste, voilà. C'est pour faire les vitraux.
Les vitraux,
voilà,
hein,
c'est ça. Restauration ou création, voilà.
Très bien, super. Bonne chance alors.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Nouvelle Vague. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Vous pouvez nous suivre et nous contacter sur le Facebook du Bouquet Grandvillet. On se retrouve pour le prochain numéro le 26 mars avec une interview du réalisateur du téléfilm L'Aigle de Sang, Christophe Douchamp. De belles vagues à tous!
C'était Nouvelle Vague sur le Bouquet Grandvillet.